Les Racines du Futur, une émission pour écouter les Vosges.
Dans cette émission, Françoise rencontre Michel Turc, auteur de policiers et de livres historiques. Il nous présente ici son pamphlet « Monologue d'un sac à dos » paru aux éditions Saint-Brice en 2020, dont il nous lit quelques passages. Michel Turc, grand amateur de nature et de randonnée, a voulu donner la parole à son sac à dos qu'il a suivi durant des années. C'est l'occasion de nous livrer quelques réflexions sur le monde actuel à travers les dires de ce sac à dos. Ironie, cynisme et humour garantis.
Alors voilà, je me présente, Michel Turc. Je vais faire une brève présentation de l'écrivain, mais avant de parler de l'écrivain, on va dire deux mots du magistrat que j'ai été, qui en fait était tenu par la loi et dont la plume était serve, évidemment, asservie à la loi. Et donc, quand j'ai pris ma retraite, je me suis senti libre d'écrire ce que j'avais envie d'écrire, lâcher ma plume. J'ai donc décidé, à ce moment-là, d'écrire un premier polar qui s'appelle « À l'ombre du Salève » et qui était édité chez Cabedita, un éditeur suisse. Puis, mes origines alsaciennes et puis le parcours un peu particulier de mes parents, qui étaient tous les deux enrôlé de force dans l'armée allemande, m'a donné l'idée d'écrire quelque chose qui leur rendrait hommage. Hommage à ces gens, et donc j'ai écrit « La vie malgré elle » de Marie-Louise Sutter. Et en fait, c'est une fiction, mais que je consacre évidemment à ma mère, dans laquelle je fais part d'idées qui ne sont pas très manichéennes. On n'a pas d'un côté les mauvais Allemands et de l'autre les bons Alsaciens ou les bons Français, mais des gens qui vivent une période extrêmement difficile, une période guidée par le fascisme. Donc c'est aussi une piqûre de rappel d'une période difficile, même très difficile. Puis, dans le même ordre d'idées, j'ai écrit « La Dame des Mines » à Mélis Urcher. Là encore, ce sont mes origines alsaciennes qui m'ont conduit à écrire cela. On est dans une littérature qui n'a rien à voir avec ce que j'ai écrit par la suite, ou apparemment, puisque mon premier polar, « À l'ombre du Salève », se déroule autour du lac Léman. J'ai ensuite écrit deux polars. Le premier, « Mulhouse Connexion », dont l'action se situe d'abord en Haute-Savoie, et plus particulièrement à Cluses, où se commet un double meurtre. Et puis, mon héroïne de toujours, qui est Carole Fernier, native d'Annecy, va conduire l'enquête pour remonter une piste et finalement aboutir à la solution de l'affaire. Puis, j'ai écrit « Murbach, un crime presque parfait ». Alors là, j'ai changé d'éditeur. Je suis édité chez Saint-Brice, qui est un éditeur alsacien et qui a une série qui s'appelle « Scènes de crime en Alsace », d'où le choix du lieu. Mais l'histoire aurait pu être écrite ailleurs, sauf que Murbach est un monument roman que je recommande à vos auditeurs d'aller visiter un jour. Roberto Eco l'a visité, puisqu'il en parle dans « Au nom de la rose ». Alors, comment je travaille? Déjà, je mets à peu près un an pour écrire un roman. Ça a été un peu plus rapide pour le monologue dont je vais vous faire lecture partielle tout à l'heure. C'est beaucoup plus court également. Et puis, monologue, c'était un jet, un coup de gueule, je dirais même. Alors que les romans sont structurés, donc il y a la phase écriture. Alors cette phase écriture, c'est vrai qu'elle interpelle toujours mes interlocuteurs. Alors, il y a ceux qui font des plans, et moi je tire des plans sur la comète. C'est plutôt un peu dans ce style. Je bâtis mes romans de manière à ce qu'ils soient cohérents sur le plan de l'enquête, sérieux sur le plan de l'enquête. C'est-à-dire, ça, c'est le souvenir de mon activité professionnelle. C'est-à-dire, on va pas sortir du chapeau quelqu'un qui subitement va faire la quadrature du cercle. Il y a une vraie enquête. Mais ce que je recherche, c'est l'humain. C'est l'humain, qu'il soit flic, qu'il soit victime, ou qu'il soit auteur. Et c'est un petit peu ma marotte de faire le tour des personnages, de leur donner une cohérence, de les analyser. Et surtout, ce à quoi je m'attache, c'est que le lecteur puisse vivre avec, puisse les imaginer, puisse mener l'enquête avec Carole Fernier, qui est mon enquêtrice, et avoir envie d'aller chercher tel salopard qui a commis telle chose, ou de protéger telle jeune fille des assiduités de telle proxénète ou autre. Voilà un petit peu le contexte dans lequel j'écris. Je ne fais pas de plan, je pars quand même avec une idée. Une idée d'une histoire, mais bon, quand on est à près de 300 pages, une histoire... J'ai à cet égard une anecdote à raconter, quelqu'un que j'ai connu qui voulait écrire, et qui, aux alentours de 50 000 mots, il ne sait plus continuer. Il bloque. Alors, c'est un petit peu la différence entre l'écrivain et l'amateur, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arriver à une histoire, ça peut s'écrire sur 30 pages, comme elle peut s'écrire sur 300, comme certains thrillers, ces polars qui sont plus longs, ces intrigues qui sont plus longues, elles tiennent quand même... Elles tiennent quand même la route, et elles tiennent la route parce qu'il y a derrière un travail professionnel. Savoir raccrocher des histoires entre elles de manière à ce que le lecteur, lui, ne décroche pas. J'ai un retour régulier d'un collègue qui me lit à la façon d'un critique, qui essaye d'être juste et qui peut être sévère également, avec une sévérité mesurée quand même, parce que chaque fois, il a terminé en disant que j'ai beaucoup apprécié. Donc, alors je parle de lui parce que c'est celui avec lequel j'ai communiqué sur les impressions qu'il a pu avoir. Les autres... Beaucoup moins. Ils ont un regard professionnel par rapport à ce que j'ai écrit. J'évite quand même, quand bien même on m'avait dit à un moment donné, bah, vous aimez bien les commissions rogatoires, on retrouve dans vos... Alors oui, en effet, une commission rogatoire, c'est un acte juridique qui prévaut dans un polar, hein, puisqu'il y a toujours dans un crime un juge d'instruction qui est saisi, et ce juge d'instruction va délivrer des délégations qu'on appelle des commissions rogatoires. Donc effectivement, il en est question. Mais pour autant, j'évite d'être trop technique. C'est-à-dire qu'on est dans le domaine du roman, pas dans le domaine du cours de droit. Donc, restons cohérents, mais restons également humbles par rapport au lecteur, parce que le lecteur, il faut qu'il se passionne des personnages qui sont évoqués, il faut qu'il se passionne de l'histoire qui est racontée, pas du tout de la procédure qui est suivie. Maintenant, si à l'occasion, il peut apprendre quelque chose sur le plan procédural, tant mieux, hein. Mais ce n'est pas le but du tout de ce que j'écris. Je vais donc vous lire un passage de monologue d'un sac à dos, complaintes, tribulations et même quelques réflexions. J'ai écrit ce monologue d'un sac à dos à l'occasion du confinement de la pandémie. Je ne parle absolument pas de la pandémie. En revanche, c'est un jet d'esprit, quelque chose qui m'est venu, et qui est radicalement différent de ce que j'ai évoqué à d'autres moments, c'est-à-dire concernant les polars, ou voir les romans historiques que j'ai pu écrire auparavant. Peut-être un coup de gueule que je voulais écrire avec une note d'humour, sans doute un peu caustique. On est dans le pamphlet, donc, et un dessinateur professionnel m'a illustré, m'a fait 7 dessins qui comptent 76 pages. C'est 2 heures, mais 2 heures, je pense, de plaisir. Alors, je vais vous lire quelques pages. La dernière fois qu'il s'est rendu à la déchetterie, il est passé tout près de moi et m'a jeté un regard apitoyé, vraiment, c'est le terme, apitoyé. Il avait une mine condescendante, j'y soupçonnais même un peu de tristesse. J'ai cru un instant que c'était la fin de mon voyage, que j'allais finir là, dans les encombrants. Ce fourre-tout de ce qu'on ne peut plus refourguer même sur le bon coin ou sur un vide-grenier. Je connais, car ces derniers temps, il m'a souvent emmené là-bas, à la déchette. Peut-être pour que je m'y habitue peu à peu, comme les gens qui vont au cimetière, histoire de voir de leur vivant ce que sera leur dernière demeure. Bon. Peut-être que ce n'était pas son intention. Il m'a tant promené partout. Pendant très longtemps, nous étions presque inséparables. Mais c'était il y a longtemps. Depuis, il en a coulé de l'eau sous les ponts qui enjambent torrents, rivières, fleuves d'ici et d'ailleurs. Il me laisse choir, là, dans son garage, m'adresse de plus en plus rarement la parole. Je sais bien qu'il m'a laissé tomber, qu'il en a pris un autre. Plus jeune, plus adapté, mais tout de même morbleu. Lui aussi a pris de l'âge. Alors quand il passe près de moi, il me jette un œil, même furtivement. Moi, ça me rappelle plein de souvenirs. Avant, moi, il en avait déjà un, de la génération d'avant. Parfois, il en parlait, évoquant leur passé commun, toujours avec plein d'émotions, mais sans regret. Il disait d'ailleurs à qui voulait l'entendre que j'étais plus fonctionnel, plus léger et quand même plus robuste. Bref, j'avais toutes les qualités et le malheureux n'avait que des défauts. Pour autant, il me traitait sans égard. Tendresse, il ne connaît pas, pense qu'à lui. J'ose même pas penser ce qu'il peut dire de moi aujourd'hui quand il part avec l'autre. Déjà, faut quand même le dire, si je suis dans cet état, c'est un peu à cause de lui. Même beaucoup à cause de lui. Mais je ne voudrais pas que cela se répète. Il est quand même assez soupolé, il dit atrabilaire. Et s'il apprenait ce que je viens de vous confier. J'ai fini par savoir lire dans ses pensées, valait mieux. Parce que, pour ce qu'il me causait. La conversation, c'était pour les autres. Enfin non, soyons justes. Il lui est arrivé de m'adresser la parole. Il disait que je devais en savoir des choses à force de voir, entendre, sentir, à force de bourlinguer. Et vous n'imaginez pas ce que je pouvais être fier dans ces moments-là. Je bombais alors le torse, vous me comprenez bien. Parce que chez vous, le torse, c'est devant. Moi, c'est derrière. Mon histoire en vaut bien d'autres. Alors avant que je finisse la déchetterie, je m'en vais vous la raconter. Tout a commencé, entre lui et moi, en tout cas, dans un petit magasin de Sallanche, à l'enseigne montagne et alpinisme. Tu y trouvais tout ce que tu pouvais chercher. Mais bon, faut se replacer dans l'époque. Par exemple, il n'y avait pas de friend, mais ceux qui ne pratiquent pas ne savent pas forcément ce que c'est. Un ami, certes, mais d'un genre un peu particulier. En fait, c'est tout simplement un coinceur à cam qui agit suivant le principe de l'arc-boutement, c'est-à-dire qu'il s'écarte quand on tire sur son axe. Aujourd'hui, on ne part plus en montagne sans ses friends et sans son téléphone. Moi, c'était l'époque des pitons et des coinceurs, et même encore des coins de bois. On en a trouvé des bien pourris dans certaines voies d'escalade. Aujourd'hui, les mecs, ils s'amusent à voler. Ça les amuse de voler et de se retrouver pendouillant au bout d'une corde. À l'époque, quand tu t'assurais sur une cordelette attachée sur un coin de bois, tu te gardais de voler, ça je te le dis. Et quand tu lâchais prise, t'avais même pas le temps de demander au bon Dieu que ça tienne. Mais fort heureusement, la plupart du temps, ça tenait. Aujourd'hui, le lâcher prise, je crois que ça a un tout autre sens. Il utilise parfois cette expression, je ne comprends pas ce que ça signifie exactement, mais pour moi, c'est comme en escalade, tu lâches la prise et tu chutes, et la chute est vertigineuse. Alors toujours de mon point de vue, pas toujours très éclairé, le lâcher prise, c'est pas si terrible qu'on veut bien le dire. Mais à l'instar des grimpeurs modernes, dans la vie aussi, il est recommandé de lâcher prise. J'ai un esprit à tiroir et vous comprendrez rapidement pourquoi. En fait, pas exactement un tiroir, ni genre poupée russe, mais un esprit compartimenté. Voilà, c'est le terme que je cherchais. C'est d'ailleurs ma grande qualité d'être parfaitement compartimenté. Il n'a pas cessé de le dire en vantant mes avantages. Du coup, je pense que c'est vrai. Mais bon, les jeunes de la nouvelle génération sont conçus de façon encore plus performante. Pourtant, s'il me laisse aujourd'hui croupir dans son garage, ce n'est pas pour être plus tendance. D'ailleurs, comment en ferait-il avec son allure de papy? Non, c'est parce que j'ai pas mal de séquelles des maltraitances qu'il m'a infligées pendant notre vie commune. Et de me balader maintenant, ça doit lui faire honte. Enfin, tout ceci pour vous dire que, de temps en temps, je dérape et passe du coq à l'âne, mais, vous le constaterez par vous-même, je reviens toujours à l'essentiel. Donc je vous disais que nous nous sommes rencontrés à Sallanche. Pour ceux qui, habitant du côté de Hallouin ou de Bousbecq, ne connaîtraient pas, c'est une commune de Haute-Savoie au pied du Mont Blanc, dont Victor Hugo disait qu'elle est un véritable amphithéâtre. Et sans vouloir être chauvin, je n'y suis pas né, le grand poète avait raison. La première fois que je l'ai vu, il ne m'a pas prêté la moindre attention, zéro. Mais moi, du haut de mon perchoir, fraîchement fabriqué dans le sud-est asiatique, par des petites mains et en dépit du long voyage fatigant pour venir jusqu'ici, je ne manquais pas un chaland. Je n'avais pas le choix, mais il y en a quand même quelques-uns avec lesquels j'ai préféré ne pas avoir à faire ma vie. Ceux-là, quand ils me regardaient et même me touchaient, ça me dégoûtait, tellement qu'ils ont dû le sentir pour finalement s'affubler d'un collègue. Lui, il achetait plein de choses. Déjà à l'époque, il appelait ça du matos, un terme que ses petits-enfants emploient encore. Piolet, il était friand de piolet. Il fallait qu'il soit technique, acéré, avec des dragons qui pouvaient se resserrer sur ses poignets. Et puis des crampons. Moi, j'avais une sainte horreur de tout ça. Je vous parle pas des broches à glace. Qui a pu inventer des machins qui rentreraient dans le cuir d'un éléphant? Et voilà qu'un jour, il me jette un œil furtivement. Il raconte ensuite au gars du magasin sa dernière mésaventure avec mon prédécesseur. Resté coincé à cause de lui. Ça, la colère qu'il lui a pris, Je vous l'ai déjà dit, c'est un être abinaire, sous-polaire donc. Ce qui signifie que ça monte vite, très vite, quand ça chauffe, mais que ça redescend aussitôt quand ça refroidit. Alors pour cette fois-ci, pas de décision drastique à l'encontre du responsable de ce coincement. Quand le pauvre a été mis au rebut, faut dire qu'il n'arrivait pas à s'en débarrasser du coup, le malheureux a eu le temps de m'en raconter des trucs. Nous étions alors côte à côte dans une cave sombre. Il avait beaucoup voyagé lui aussi, surtout pour l'époque. Et moi, fier de le remplacer, il ne me promettait pas que des jours heureux. Mais c'est le dépit qui le faisait parler. Avec ses écussons sur le dos pour se la péter, trois ou quatre, me souviens plus vraiment, un du Pérou, Lima, un autre d'Autriche, avec des Edelweiss, tu parles, et un mec en short en cuir avec des grosses chaussettes, un goût, je te dis pas. Les autres, je sais plus, c'était il y a si longtemps. Donc cette première rencontre, c'était une sorte de prise de contact. Mais j'avais remarqué que je lui plaisais. En saluant la patronne, il s'est tourné vers moi, c'est clair, j'avais fait une touche et il l'avait mordu. C'est quand il est resté à nouveau coincé qu'il a pris la décision de jeter celui qui occupait la place avant moi. Sentence irrévocable. C'est un terme qui revenait fréquemment dans ses conversations. Irrévocable. C'est pour ça que je l'emploie. Pas comme Sartre qui termine une de ses pièces en criant « irrécupérable ». Mais comme le personnage de la pièce, pas de compromis, terminé. Et le voilà qui arrive au bazar des montagnes à Salanches, tout sourire, et le venant devant le rayon, nous examinant en détail les uns après les autres, demandant à la patronne, en s'esbaudissant devant un autre prétendant, « Vous ne l'auriez pas en rouge, très fonctionnel, bien étroit aussi ?»« Non, mon cher monsieur, en rouge, on a celui-ci. Très bonne marque, tout ce que vous recherchez et à peine plus cher. » Je n'osais pas crier victoire, victoire trop tôt, de peur de devoir déchanter. D'autres avant lui, pas désagréable non plus, avaient renoncé à cause de cette vile question de prix. Je le voyais hésiter, tournant son chéquier cette fois dans sa poche avant de céder. Ce fut là le début d'une des plus belles histoires d'amour, encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'il m'a fait. Je l'aime encore. Il m'a tout appris et parfois quand il chantait, « J'ai tout appris de toi » pour ce qui me concerne, qui fait jour à midi qu'un ciel peut être bleu. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne. Je croyais naïvement qu'il parlait de moi. Mais tout faux. J'ai jamais vraiment su le boulot qu'il faisait. Jamais il m'y a emmené. C'était son prix carré. Ce que j'en ai déduit, peut-être flic, journaliste, photographe. Mais je ne connais pas grand-chose des flics. Et puis, il ne s'agit pas de parler de lui. N'a qu'à le faire lui-même, mais de ma vie avec lui. En vous la racontant, vous jugerez par vous-même, vous verrez que j'ai retenu plein de choses, de ce qui m'a été donné de voir ou d'entendre, de ce que j'ai compris, des conversations qu'il avait chez lui ou avec d'autres, quand il me faisait l'honneur de m'emmener. Des trucs hilarants, parfois, mais aussi des trucs à te faire flipper ou à te faire chialer. Et tout ça, sur les mêmes thèmes de l'argent, de l'amour, de la politique, de la religion, du sexe et de cet incroyable fourre-tout que je jalousais et qu'on nomme société. Nous voilà donc bras dessous, sortant du magasin Salanchard. Il avait l'air satisfait d'un gamin qui s'est fait payer une sucette. À peine arrivé à sa bagnole, une deux pattes verte qui s'appelait Chlorophylle, sans vergogne, il m'a foutu dans le coffre, sur la roue de secours, quasiment dans l'obscurité. Ça partait mal, cette affaire. Et le voilà, en route jusqu'à son domicile. Il chantait à tue-tête, bien que ces vaches de bourgeois les appellent des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, et moi je venais de comprendre que je ne rigolerais pas tous les jours. Chez lui, il m'a présenté à sa femme, et lui a largement vanté toutes mes qualités avant qu'elle demande mon prix. Elle a fait d'abord la moue, puis finit par approuver le choix et puis, de toute façon, le mal était fait. Elle ajouta qu'il allait enfin pouvoir se débarrasser de son vieux rucksack. Mais que dalle, pas question. Rucksack et ses écussons, et je passe toute la litanie de qualité qu'il lui trouvait subitement. Son épouse, au contraire, voulait absolument le mettre au rebut. Elle lui rappelait d'ailleurs qu'il ne cessait de s'en plaindre. Moi, je pris subitement conscience de la difficulté qui sera la mienne de me substituer à quelqu'un d'aussi parfait qu'il portait toujours dans son cœur. Je regrettais presque d'être parti avec lui, et moins de 10 minutes après, je le déplorais définitivement. Au prétexte d'une réunion à laquelle il devait se rendre, il m'a saisi par le bras, m'a descendu à la cave, obscurité totale, posé, que dis-je, balancé à côté de Rucksack, qui évidemment m'a regardé d'un sale œil. On ne s'est pas beaucoup vu, juste le temps du halo de lumière provenant du couloir quand il a ouvert la porte, qu'il a immédiatement refermée sur nous. Quel mufle, j'ai pensé. Même pas un mot pour lui dire que j'arrivais, pour lui dire que je n'avais pas choisi d'être son rival, rien. Démerdez-vous. Tu sens le neuf, comment t'appelles-tu? Moi, c'est Rucksack. Je voulais pas lui dire que lui, il sentait le moisi et que j'en avais des hauts le cœur. Et puis quelques fragrances provenant de mon maître, un mélange qui en disait long sur la situation de Rucksack, dont les dernières sorties devaient déjà dater. J'ai pas de nom, que je lui réponds. Au magasin, j'étais dans le rayon sac à dos. Normal. Donc je suis viré à cause de toi. Le peu que j'ai pu en juger, t'es pas très costaud. Parce qu'avec lui, il faut t'attendre à tout. Par exemple, à chaque voyage en avion, j'ai fini en soute, écrasé par des centaines de valoches, étouffé par l'atmosphère. T'as souvent pris l'avion? Ben, à chaque fois que c'était nécessaire. Je suis allé au Kenya chez les Maasai, quand c'était encore du sport que d'entrer dans une tribu. Atterrissage à Benghazi, c'est en Libye, et l'aéroport qui venait d'être bombardé par l'aviation israélienne. La piste n'était pas endommagée, mais autour, je te dis pas. J'ai été en Irlande, le Nord, l'Ulster, Palerme, qui était déjà indépendante. Ça bardait à Belfast et à Londonderry. Des barricades, les devantures des magasins explosées, des bruits de tambours, des incendies. J'étais pas fier, mais on l'a fait et au passage, on a quand même été voir la chaussée des géants, des orgues basaltiques hexagonales et pentagonales qui contemplaient, en les regardant se faire fouetter par d'énormes vagues, une merveille géologique, c'est sûr. Mais moi, je prenais le grain, tandis que lui était couvert d'un ciré jaune et d'un chapeau de pluie assorti genre pêcheur d'Islande. Et quand il m'a remis sur son dos, il m'a même reproché d'être trop lourd. Manque pas d'air, tu verras. Et plus tard, avec sa copine, le Pérou. C'était peut-être le Pérou pour eux, mais pas pour moi. Mais bon, on l'a fait aussi.
Vous avouerez, monsieur le juge d'instruction, qu'on ne pouvait pas en rester là. Alors j'ai repris la lecture. Ma passion de la nature. Je ne me prends pas pour Jacques Cartier, mais c'est cette passion, celle des oiseaux, qui m'a fait traverser les océans. La flore, quant à elle, c'est la vie qui s'épanouit sur un monde minéral. Ainsi, les fleurs et les oiseaux, la beauté des unes et des autres, m'en ont fait tomber amoureux. Et puis, quand avec mon maître nous allions à leur rencontre, il me confiait toujours une mission délicate. Rien à voir avec la charge habituelle, faite d'un enchevêtrement de cordes et d'égaines et autres matériels de montagne, pesant, volumineux, étouffant. Avec mon maître et son épouse, nous nous extasions en découvrant une fleur rare, comme si nous venions de trouver un trésor. Et chaque fois que l'occasion nous en a été donnée, nous observions les oiseaux, ces êtres magiques qui savent voler et qui apportent gaieté et animation à la nature, et surtout qui l'embellissent par leur coloris et leur chant. Ma mission consistait à porter l'appareil photo, les objectifs, les jumelles de l'épouse qui, de son côté, avait un sac à dos de plus petite taille qui ne me faisait pas d'ombre et dans lequel elle mettait le casse-croûte. Mon maître, qui d'habitude me bousculait, n'hésitant pas à me jeter à terre comme si j'étais insensible à la manière dont il me traite, fut dans ces moments-là plein de délicatesse à mon égard. Et moi, vous pensez bien, je bichais. Dans ces décors bucoliques, j'apprenais d'abord à identifier les fleurs. C'est d'ailleurs moi qui portais les bouquins sur la flore et sur les oiseaux.
La patronne réalisait un herbier, donc de temps en temps, elle cueillait précieusement une fleur sur tige qu'elle insérait dans le bouquin. Quand je vous disais que ma mission était pleine de chausse-trappe, et oui, car il me fallait simultanément faire attention au matériel photo et veiller à ce que les fleurs ne glissent pas du livre. Je savais que la patronne y tenait, elle prenait un soin tout particulier à les embaumer, un peu comme faisaient les civilisations établies le long du Nil avec leurs ancêtres prestigieux. J'insiste sur la métaphore à cause de l'importance qu'elle donnait à tel saxifrage, à tel autre androsas ou encore à un sabot de Vénus jaune et rouge bordeaux qu'elle vénérait plus que tout autre. Je cite ces trois-là et me limite pour l'instant à eux, pour que vous ne soyez pas obligés de stopper votre lecture pour aller commander illico presto chez votre libraire habituel, la grande flore illustrée de Gaston Bonnier, et ne reprendre mon récit qu'après l'avoir acquise. Gaston Bonnier ? Ah, on a le droit de ne pas connaître. Moi, je ne connaissais pas. C'est un botaniste réputé. Lui, c'était la flore sauvage. Il a tout répertorié, pas comme moi, qui vous épargne les longues énumérations. Si je précise « fleur de la nature », c'est pour qu'il n'y ait pas de confusion avec le grand jardinier de Versailles, André Le Nôtre, et encore moins avec le chocolatier Le Nôtre qui est passé du ravissement des yeux au plaisir gustatif. Mais ne nous égarons pas. En revanche, ce n'est pas le grand Bonnier que j'ai trimballé par Mons et par Vaux, mais un ouvrage de vulgarisation écrit par un Anglais, Anthony Huxley, permettant aux promeneurs de mettre un nom sur les fleurs de nos montagnes. 30 ans dans mes poches, 30 ans à le compulser, et je ne connais toujours pas tout. 1200 illustrations, t'imagines ? J'entends encore mon maître prononcer cette sentence. Une fleur n'est jamais rare dans sa station. Empruntée à Bonnier ? Qu'importe. Et c'est vrai, j'ai pu constater par moi-même que certaines espèces dites rarissimes prolifèrent pourtant là où elles existent. J'ai vu des forêts de saules nains, des champs de lys des Alpes. En revanche, je ne veux pas vous en foutre plein la vue. Une ramonde des Pyrénées, corolle bleu-violet, étamine jaune, même dans les montagnes éponymes, quand tu en vois une, c'est un cadeau du ciel. D'autant que c'est une espèce provenant d'une famille tropicale. Une offrise bourdon, véritable leurre pour l'insecte, mais en tant qu'invitation à l'accouplement, on ne fait pas mieux. C'est un truc fabuleux pour favoriser la pollinisation et assurer la fécondation. Rare également, mais je ne la cite qu'à cause de la sonorité très poétique de son nom, la fritillaire. Bien qu'étymologiquement le nom vienne du latin fritillus, cornet à dés, sans doute à cause de son aspect de damier, pour moi j'y vois une plante gracile, fragile, genre défilé de mode chez Dior. Si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'il faut aller vers la nature pour l'aimer et la comprendre, et finalement la respecter. Et quand vous aurez vu une renoncule des glaciers d'apparence si vulnérable, tandis qu'elle est au contraire un exemple de résistance aux écarts de température, aux intempéries, je vous le dis, vous ne jetterez plus votre papier gras plastique à ses côtés, car vous aurez honte. Oui, vous ne commettrez plus une telle infamie, parce qu'en ayant simplement regardé cette fleur, vous aurez compris quelque chose. Je suis devenu, comme mon maître, élitiste, ras-le-bol des cons. C'est lui qui ne cesse de le dire. Les fleurs, des familles entières sont menacées d'extinction. Et moi, ça me fait de la peine. Il n'y a pas que l'ours blanc que j'ai eu la chance de voir. Il y a aussi les bleuets, les coquelicots, les marguerites qui donnaient aux champs de blé enluminés, au soleil couchant, une touche cocardière. Je parlais de quoi déjà ? Ah, ça me revient, les fleurs. Je parlais de leur poésie. C'est naturellement poétique, une fleur. Un alpage fleuri au mois de juillet, nul besoin de le mettre en vert, quand les pétales d'une grande astrance dansent autour des étamines d'un lys martagon. C'est comme les rimes qui viennent rythmer les vers du poète. Mais j'attire votre attention sur la fragilité de tout ça. Je ne suis qu'un modeste sac à dos, et vous livre mes avis sans prétention. Cependant, j'ai parcouru des alpages où poussaient pléthore d'édelweiss, et aujourd'hui, c'est plus facile d'en trouver dans les jardineries qu'au pied des falaises. Le rêve d'Icare. Les couples de grands grèbes huppés se font plein de mamours quand ils se forment, au début du printemps. Chaque année, ce bel oiseau revêt son costume d'apparat pour aller danser avec celle sur laquelle il a jeté son dévolu. Un vrai balai. Pas monogame comme les tourterelles qui se jurent fidélité et qui respectent leur serment, pas comme d'autres. Mais une fois qu'on a choisi, c'est bon jusqu'à ce que la progéniture puisse voler de ses propres ailes. Car bien que la custre est dotée de pattes palmées, le grand grèbe sait s'élever dans les airs. Il faut voir les jeunes parents s'occuper des oisillons à tour de rôle. Quand ces derniers sont fatigués, ils montent sur le dos de papa ou maman pour se laisser bercer ou pour faire la sieste. Obligatoire au début, comme pour les jeunes enfants qu'on fait dormir l'après-midi en classe maternelle. Quand ils ont faim, et il y en a toujours un pour avoir une petite fringale, un petit coup d'hypoglycémie, le parent non occupé, à faire poussette flottante, plonge inlassablement pour remonter de petits alevins faciles à digérer. Allez au bord du Léman, ou ailleurs, et observez. Observez Darwin, Wallace, leurs connaissances, ils les ont acquises en observant. Passons. Moi, voler, ça n'a jamais été mon truc. En escalade, quand nous volions, lui et moi, ça me fichait de ses frayeurs. Fort heureusement, ça n'arrivait pas souvent. Mais c'était toujours si impromptu, pas le temps de se faire à l'idée qu'on allait descendre à très grande allure ce qu'on avait gravi lentement et péniblement. Sensation très désagréable. Et je n'ai jamais compris pourquoi les varapeurs emploient le verbe « voler » quand ils sont tout bonnement tombés. Question d'élégance, métaphore de rattrapage. Occasionnellement, j'ai fait un peu de parapente. Ouais, très dangereux aussi, statistiquement. Il y a pas mal de casses. Et puis, c'était pas mon truc. Montgolfière, une fois, et plus jamais. Atterrissage viril, qu'il disait le gars qui nous a emmenés. Avec le vent qui continuait de s'engouffrer dans la toile, la nacelle avait tapé le sol à plusieurs reprises, et avec quelle force, avant de s'immobiliser, et tout le monde en vrac. On va donc laisser le ballon à Jules Verne. 5 semaines, avait vraiment besoin d'aventure celui-là. Reste l'avion. Quand il ne me foutait pas en soute, je finissais dans un cagibi de rangement des bagages à main. Si encore tu pouvais roupiller pour passer le temps, mais que dalle, que chi ! Lui, il lisait, ou alors, depuis que les avions sont équipés d'écrans, il regardait l'itinéraire suivi et les indications de vol. Vitesse au sol, température extérieure, altimétrie et tout le Bataclan. À mes débuts, j'ai connu la tabagie dans les avions. J'en tousse encore. J'ai fini par accepter que voler était décidément réservé à la faune aviaire. Mais même là, ce n'est pas donné à tout le monde. Plus haut, on a déjà parlé des manchots, mais il y a les kiwis néo-zélandais, les cagous néo-calédoniens, les abrutis néo-nazis, oh non, ça m'a juste échappé, et les coureurs de jupons, oh non, là encore, pardonnez-moi, c'est ma pensée qui divague. Et puis, il y a l'autruche, à laquelle on prête d'être pleutre. On, c'est ceux qui n'ont jamais vu une autruche en colère. Tu parles que de trouille, ça mettrait la tête dans le sable ? Rien de plus belliqueux que cette espèce de girafe à plumes avec son tutu genre French Cancan. T'as pas intérêt à t'approcher de sa couvée, même si elle s'en est éloignée, car elle revient très vite pour te mettre en pièces. Alors quand on me dit de ne pas faire l'autruche, je trouve que l'expression est complètement déplacée. Je sais pas pourquoi il se dit des trucs comme ça, qui signifient le contraire de ce qui se passe dans la réalité. On dit aussi faire la politique de l'autruche. Là, je comprends mieux. Se cacher pour fuir ses responsabilités, là, ça colle. Mais sûrement pas à cause de l'archéoptérix des temps modernes. Mais la plupart des oiseaux volent. Est-ce pour cela qu'on dit que la pie est voleuse ? Voler ou voler, même en cherchant l'étymologie, on ne comprend pas. Par contre, volage, ça, on pige. Les hommes et les femmes, mais pas les sacs à dos, ce que je viens de vous expliquer en prenant mon cas personnel, ont toujours rêvé de voler. J'ose terminer mon propos par cet aphorisme. Non, pas aphorisme, vœu pieux et plus juste. C'est bien d'aller se frotter contre le granit en progressant le long d'une dulfeur. C'est même excitant de chercher des équilibres par transfert du poids du corps. C'est aussi une manière de s'élever. Mais j'insiste, cette forme d'évasion doit te permettre de revenir sur Terre afin de grandir. Et pourquoi ne le dirais-je pas, moi, sac à dos ? Elle doit aussi te permettre de franchir le pas de la probité et de l'amour.
Les racines du futur. Une émission pour écouter les Vosges.